Voici The Just Liars.
It feels like hell. Deception, believe, inspire, conceive. When everything is wrong, the weakness too strong. So what it feel like when the tables turn? Does it feel right? I hope it's torture.
Premier extrait de Take It Easy. On verra tout à l'heure pourquoi le disque s'appelle comme ça. Take It Easy, donc avec Guillaume Robin au chant et à l'harmonica, bien sûr. Je vous ai donné la liste des musiciens tout à l'heure. Voici Guillaume au téléphone. J'espère que ça fonctionne. Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Ah bah écoute, on t'entend fort, il n'y a pas de souci. Ah. Très bien. C'est pas nickel parfait, mais voilà, bah, compte tenu du fait
que... Ok, écoute, on va...
C'est une petite radio aussi, tu sais, radio...
J'essaie de parler moins
666.
Fort.
Non, tout va bien, on t'entend bien comme il faut. Guillaume, je venais te dire à l'instant que tu étais l'harmoniciste et l'un des chanteurs du groupe The Joss, anciennement Mr. Joss, dont l'album s'appelle Take It Easy. Est-ce qu'on peut faire, déjà, pour camper un petit peu le personnage, Guillaume Robin, voilà, ton background, comment est-ce que tu es venu à la musique et pourquoi plus particulièrement de l'harmonica, sachant que tu joues d'autres instruments, hein.
Ouais, bah, harmonica parce que j'étais en sport études à l'époque et je me suis occupé en achetant un harmonica en fait. Et j'ai vu un concert de Jean-Jacques Milteau, j'avais 12 ans. Et c'est parti de là, j'ai joué tout seul. Voilà, ça a été vraiment un acte très personnel et individuel au début.
Le sport et les études, ça remplit pas un emploi du temps, il fallait aussi de la musique, c'est ça? Tu as un boulimique de l'activité?
Je sais pas, mais en tout cas j'étais attiré par ça alors que je suis pas dans une famille de musiciens du tout.
Ouais.
Et c'était un moment entre moi et moi.
Voilà. Ah oui.
Voilà, c'était un peu ça.
Et ça, c'était ça remonte donc voilà, quand tu étais teenager?
Ouais, 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 j'avais 12 ans quand j'ai commencé, 12-13 ans à jouer pour moi.
Avec l'influence de Jean-Jacques Milteau, avec peut-être d'autres influences, d'autres harmonicistes, des Français, des étrangers?
Ah oui, oui, bah très vite ça a été Sonny Terry, Little Walter, Sonny Boy Williamson II, Big Walter Horton, enfin tous les grands classiques.
Et voilà, les grands classiques, les créateurs hein, de l'harmonica blues, et peut-être aussi, je ne sais pas, d'autres Français, des Européens, des gens que tu continues à écouter maintenant, il y a des gens que tu admires comme ça, ou que sur lesquels tu as toujours une oreille?
Ah bah j'écoute un petit peu d'harmo, pas tant que ça au final, mais oui, il y a des harmonicistes comme Michel Herblin que j'apprécie énormément, des gens qui apportent autre chose en fait, mais même en blues, hein, un Nico N. Toussaint, c'est quelqu'un que j'adore son jeu, pas que son jeu d'harmonica d'ailleurs, mais voilà, donc il y a beaucoup de choses que j'écoute, ou Jason Ritchie aussi, j'étais très fan aussi de John Popper. Je ne sais pas si tu vois, qui jouait dans les Blues Travelers, qui a un style très très différent aussi,
d'accord.
Qui a été parfois un peu critiqué, mais moi je trouve qu'il apporte quelque chose de neuf. Quoi. Voilà.
Je me souviens juste du nom du groupe, effectivement, je te fais confiance, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux. Jason Ritchie, oui, excellent, enfin son dernier album, c'était vraiment une grosse tuerie, je l'avais vu sur scène l'année dernière, voilà, quelqu'un d'assez particulier. Tu parlais du jeu d'harmonica aussi de Nico N. Toussaint, on peut parler de son jeu de scène, c'est important pour un groupe, pour un harmoniciste que tu es, quand tu es sur scène, de ne pas faire que corps avec l'instrument, mais également avec toute la scène, ou pas forcément? Est-ce que c'est la musique qui prime d'abord?
Alors, je sais qu'avec The Joss, on l'a beaucoup travaillé, parce que pour nous, c'était quelque chose où il fallait travailler. C'est-à-dire qu'on essaye de ne plus être campé derrière nos instruments, on a essayé de faire un set construit aussi. Ça, c'est un travail de plusieurs années. Hein. Donc oui, c'est important d'avoir aussi une attitude, d'avoir cet entrain, d'avoir voilà. Donc c'est un vrai travail. Quoi.
The Joss, c'est un groupe qui existe depuis une petite douzaine d'années, si j'ai bien tout lu.
Alors le groupe est né en fait en 2001 autour du batteur Stéphane Tricot et du bassiste Samuel Tricot qui sont deux frères,
ouais.
Et avec Joël Sicard qui était guitariste et chanteur, et très vite le clavier est arrivé, Olivier Delafuy, et puis moi je suis arrivé un peu plus tard en 2006, voilà. Et le groupe actuel c'est le groupe de 2006.
Donc au départ ça s'appelait Mr. Joss, pourquoi ce changement de nom? Est-ce que Mr. Joss c'était trop connoté par rapport à l'un des musiciens?
Non du tout. En fait, d'abord, ça s'appelait Mr. Joss Blues Band.
Ouais.
On a fait les rendez-vous de l'herbe comme ça, le tremplin, on a sorti un album sous le nom de Mr. Joss Blues Band. Et puis, pour deux raisons essentielles, on a enlevé le blues band, c'est que simplement, on n'est pas des bluesmen, on joue du blues, mais ça fait pas, il n'y a pas que ça dans notre musique, loin de là, il y a de la pop, de la soul, on se prétend pas être bluesmen, d'ailleurs, c'est un peu dur de se prétendre bluesmen aujourd'hui, je trouve, mais donc on joue, il y a un socle de blues. Et puis, donc, on a enlevé le blues band pour ça, parce que c'est une musique, on sait qu'on fait une musique assez ouverte en fait, hein, qui n'est pas un blues de Chicago,
d'accord.
Enfin voilà, on n'est pas du tout dans ce trip là, nous. On respecte hein, tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est pas du tout notre travail, enfin on n'est pas dans cette démarche là. Donc on a enlevé le blues band pour ça d'abord,
oui.
et puis après on a sorti un EP, sous le nom de Mr. Joss,
mm-hmm.
Et Mister à l'époque c'est que, voilà, ils trouvaient ça sympa de mettre ça, mais on est un groupe où on est cinq, il n'y a pas de leader plus que ça, et c'est surtout, si tu veux, c'est pareil, ce Mister pouvait laisser à penser que. Et en dehors, on nous appelait souvent les Joss, en fait. Voilà, c'était
d'accord.
Un peu le... Donc on a pris un peu notre surnom, qui maintenant est The Joss. Voilà. On a changé deux fois de nom, mais là, on va arrêter de rétrécir, parce que je pense qu'on est rendu au bout, tu vois,
oui.
Normalement.
Non, ça va se finir par Joe, et puis voilà.
C'est... Voilà, ouais.
Et on va revenir à Joël Sicard, qui est l'un des chanteurs. Alors, deux chanteurs dans un groupe, comment ça se gère? Tu disais à l'instant, on ne se prétend pas des bluesmen, on ne fait pas que du blues. Est-ce que le fait justement d'avoir deux chanteurs et peut-être deux leaders, je ne sais pas si c'est exactement ça, est-ce que c'est facile à gérer?
Ah, c'est très facile parce qu'on travaille vraiment collectivement, nous. on est deux à écrire les textes, hein, forcément, les deux chanteurs. C'est pour ça qu'on est, on s'estime pas des leaders, on est un peu plus devant, c'est normal, c'est la conception, c'est la, la mise en place de la scène.
Oui.
Mais après, on travaille vraiment ensemble, c'est-à-dire qu'on va écrire chacun des textes, on fait la musique à cinq, vraiment à cinq. Hein. C'est-à-dire qu'on vient même, nous, des fois avec des idées, les auteurs, et on en ressort deux heures après, ça n'a plus rien à voir, et c'est ce qui nous plaît, en fait.
D'accord.
Donc on a, et sachant que on est tous les deux un peu plus issus du... un peu plus issu du blues, les autres un peu moins. Il y en a un qui vient du rockab, hein, qui vient plus de la variété, et donc ça amène autre chose, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on c'est vraiment un travail très collectif. On est vraiment
pas de leader, et puis un travail en commun avec des transformations. Et chacun amène sa petite pierre. Ça se passe en répétition, ouais, exclusivement, ou aussi à d'autres occasions. Comment est-ce que vous travaillez ensemble?
On répète régulièrement, une fois par semaine, sauf quand on a beaucoup de concerts où là on lâche, ou avant un album aussi. On prépare tout ça, donc on travaille beaucoup, on répète une fois par semaine en moyenne pendant 2-3 heures, et c'est là en fait que les choses se font, hein, beaucoup. Après on reste en communication souvent, donc il y en a un qui... Chacun s'occupe un peu, c'est une petite entreprise où chacun s'occupe de différents secteurs par rapport au groupe, et puis on essaye de faire des arrangements, de scéniquement, de monter les choses, de changer des chansons, d'y ajouter. Ça peut se faire par mail, mais souvent ça se fait, ou par téléphone, mais souvent ça se fait quand on se voit régulièrement, parce qu'on habite à 25 bornes autour, quoi, dans un rayon de 25 km.
D'accord. Alors ça veut dire que depuis 12 ans, depuis 2006, 2001 qu'existe le groupe, j'ai bien compris, mais depuis 2006 qu'il est dans cette formation Quintet, il y a une répète par semaine, des concerts. Et c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, ça transparaît dans ce que tu dis, une question d'amitié, non?
Ah oui, on est une bande de potes. Et ça se ressent sur scène aussi, parce qu'on se prend au sérieux quand on travaille, et quand on écrit, on se prend moins au sérieux sur scène.
Ouais.
Du coup, on a un petit capital sympathie qui passe bien. Et oui, on est une vraie bande de potes. Et je dirais qu'il y a eu un déclic pour le groupe, c'est 2009, où on a fait, d'ailleurs, c'est en ce moment, le tremplin des rendez-vous de l'Erdre, où on a remporté deux prix. C'est là, en fait, que les choses ont... On a pris un peu plus d'ampleur, quoi. Parce qu'avec ces deux prix-là, ça nous a incité, dont l'un, c'était le prix de la créativité, je ne sais pas s'il existe toujours. Et l'autre, c'était, on a fini deuxième, derrière Jeff Traeger, d'ailleurs, à l'époque,
ouais,
où on a joué à l'Europa Jazz du Mans avec Nina Attal et El Mordé. Et l'autre prix, la créativité, c'était une journée de studio, en fait, enfin, une bourse. Et c'est là où on a sorti l'album, en fait.
Voilà.
Ça nous a incité, en fait, à continuer dans les compositions, parce que on fait très, très peu de reprises.
Ça veut dire un capital confiance régénéré, peut-être, on a besoin de ça quand on est musicien, la reconnaissance pas seulement du public, mais aussi des programmateurs de festivals, des médias.
Ouais, de toute façon, c'était un test qu'on voulait faire depuis un moment, et en 2009, je me souviens que c'était vraiment pour nous important, et du coup, ça nous a conforté dans cette démarche, parce qu'on a conscience qu'on est... On a vraiment un socle de blues, mais qu'on s'ouvre vraiment. Après, on a chacun notre avis là-dessus. On respecte ceux qui font des shuffles, qui restent dans les règles de l'art. Il n'y a aucun souci, on aime ça aussi. Mais nous, je sais que pour avancer, on a besoin de... Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça se sent chez plein d'artistes avec des grands rayonnements. On a besoin d'un blues moderne, on a besoin d'y apporter des choses. C'est ce qui fait que le groupe existe encore, en fait.
Mmh.
Voilà, c'est vraiment... Pour nous, c'est très important. Et ce tremplin nous a permis, justement, quelque part... ça a été la bascule un peu, ça nous a permis de composer, de continuer, en fait. Ça a été vraiment un moment charnière dans l'histoire du groupe.
D'accord. Guillaume, harmoniciste et chanteur de The Joss, avec cet album Take It Easy, qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Il y a eu pas mal de retours, il y a eu des interviews, il y a eu également des chroniques de cet album. Et dedans, je lis, c'est chez parimove.com, plus j'écoute du blues, plus j'aime l'harmonica, ou l'inverse, qui reviendra au même, car cet instrument est incontournable de cette musique. Pourtant, il existe, moi je rajoute, il existe peut-être des milliers d'albums de blues sans harmonica. Pour toi, ça n'a pas forcément d'intérêt?
Ah si, mais moi, c'est pas moi qui ai dit ça. Hein.
Non? Ah bon, alors, c'est bon, à ce moment-là, c'est le gars de
c'est le journaliste c'est le journaliste qui écrit ça.
Ah ben, excuse-moi, je t'ai posé une question pour rien.
Moi, l'harmonica, c'est un instrument parmi d'autres, c'est certainement pas, c'est peut-être pas le plus important, d'ailleurs. Voilà, mais...
Ok, les guillemets ont dû... Je sais pas.
C'est pas moi qui ai dit ça. Oh non, oula, surtout pas.
Je conclue de la première partie de cette interview, ce que tu me disais à propos de toi. Tu es, et ça, je rejoins une question que pose Patrice Rayon, à qui tu avais également accordé un entretien il y a quelques années pour harmonicacontact.com. Il te demande, je te le demande à travers ce micro, tu es Donc autodidacte, Guillaume.
Ah ben oui, complètement, moi, oui, oui.
Et alors, le fait d'être autodidacte par rapport à d'autres musiciens que tu peux citer, il y en a certains qui ont énormément travaillé leur instrument et puis qui savent lire la musique. Toi, tu lis la musique ou pas?
Oui.
Ouais.
Oui.
Donc, un autodidacte qui connaît son solfège.
Mais je m'en sers pas, en fait.
Alors, comment tu fonctionnes, dis-moi?
Ben non, parce que quand on joue avec... c'est un instrument... L'harmonica, c'est quand même beaucoup, surtout en blues, c'est un instrument à la feuille, quoi. Donc je m'en sers pas, donc du coup je perds parce que je travaille pas du tout cet aspect-là. On s'en sert quand on joue ensemble sur certaines choses, mais après c'est vraiment on travaille vraiment en cercle, hein, notamment avec The Joss, on est vraiment et puis on travaille à l'oreille, on part sur des tonalités, des choses et puis voilà chacun. Mais je m'en sers pas pour travailler l'instrument, je m'en sers pas plus que ça, comme beaucoup d'harmonicistes. Hein. La majorité des harmonicistes ne disent pas le solfège. Hein.
Enfin, oui, bah, tu citais Little Walter, Sonny Terry, effectivement, c'est des gens qui ont tout appris derrière les juke joints, effectivement. Voilà, pour en revenir à ce groupe, on a cité tout à l'heure tous les musiciens comme étant des amis de longue date. Les deux frères Tricot qui se sont rencontrés d'abord avec le claviériste Olivier Delafuy, Joël Sicard qui arrive et toi Guillaume Robin qui arrive enfin. L'album Take It Easy, pourquoi Take It Easy? Ça correspond... Ça correspond à aucun des 9 titres en fait de l'album.
Non, aucun. En fait, le premier So Expected, c'est parce que ça faisait quelques années qu'on nous demandait un album. Voilà, on a sorti un EP en 2015 qui s'appelait Five parce qu'on est 5 et qu'il y avait 5 titres. On est très intellectuels nous dans le.
Oui, ben, on peut comprendre ça très très bien. Hein, So Expected.
Voilà. Et puis pour Take It Easy, c'est simplement que ça nous ressemble un peu en fait, on prend ça aussi quand même à la cool, même si on travaille beaucoup, même si on a besoin de jouer. D'ailleurs c'est surtout la scène nous qui nous importe, on cherche des concerts, on a envie de jouer. Et Take It Easy, c'est aussi, voilà, il faut être cool, quoi, parce que c'est ce que ça veut dire, hein, c'est ce qu'on essaye de faire, quoi. Mm. Globalement c'est ça, et donc la photo c'est aussi ça, on est assis tranquille et voilà, on n'a pas de date butoir à chaque fois, on se met pas des objectifs très précis, on y va tranquille, quoi. Voilà.
Ça vous fait un point commun avec les Lazy Bodies de Rennes.
Oui.
Alors vous êtes de Cholet, hein, c'est dans le 49.
Ouais, autour de Cholet, ouais, et Nord-Vendée.
Il y a des choses à faire quand on est musicien, il y a beaucoup d'endroits pour se produire où il faut vraiment aller plus loin.
Oh bah, il n'y a jamais assez d'endroits. Mais nous on joue pas mal sur notre territoire. Hein. On fait des saisons culturelles. On joue très peu dans le secteur du blues, c'est notre grand regret. Globalement, on fait des festivals, on va souvent à Thouars. Alors il y a Tonton Eric qui nous a beaucoup défendu. Blues en Chenin forcément, puisque c'est pas loin. Voilà. Et puis Jean-Claude, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Ils nous ont programmé l'année dernière. On a fait Jazz Elro, voilà, festival de jazz, le jazz bas la campagne, pardon. Donc oui, il y a de quoi faire. Après, on n'est pas à Nantes non plus, quoi. Hein, donc on se promène, oui, on essaye de se balader, pas mal.
Ça rejoint ce que tu disais à propos de Take It Easy. Vous êtes un groupe amateur, au sens noble du terme. Vous travaillez tous les 5, en dehors.
Alors, nous, on n'a pas cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on est, à la limite, on est des promateurs. Ouais. Mais on est payé pour jouer aussi. Enfin, ça, c'est très français. Hein. C'est très dur d'avoir plusieurs métiers.
C'est vrai.
C'est Eric Bibb qui me disait ça il y a quelques années. Il me dit, ça a toujours fait rire. En France, on n'arrive pas à accepter que vous ayez plusieurs métiers.
Bah non,
parce
que
nous, c'est vrai qu'on a plusieurs activités. Il y en a même un qu'on a eu 3 pendant une période. Enfin, voilà. Après, ça reste une activité un peu plus à titre accessoire. Faut bien le reconnaître, hein, parce que moi je travaille dans le spectacle aussi, je suis programmateur.
Oui, tu es programmateur au théâtre du Cholet, c'est ça, hein.
Ouais, il y en a un qui est arboriculteur, bio, il y en a, enfin voilà. Mais ça reste, on a une démarche professionnelle complètement, c'est-à-dire que ça peut être le cas d'ailleurs, on en connaît pas mal des groupes comme ça, hein. On parlait de Lazy Buddies, il y a aussi des Shaggy, je crois que c'est un peu pareil, mais surtout avec l'air du temps, vivre de la musique n'est pas une tâche très, très facile, donc voilà, on est. Donc pour nous, ça reste une activité. C'est un plaisir, un loisir aussi, mais c'est aussi une activité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça, on ne se considère pas comme des amateurs. Voilà. On se considère comme des musiciens qui jouons notre musique, et si possible, quand on est payé, c'est bien aussi. Quoi.
Voilà, voilà. C'est pour ça que je disais amateur au sens noble du terme, c'était absolument pas péjoratif. C'est vrai qu'un musicien amateur, on a tendance à dire que c'est un mec qui débute et puis qui ne se débrouille pas trop. En fait, non, vous avez une démarche professionnelle. Enfin, en tout cas, moi, je sens à tout ce que tu dis, tu me parles à propos de votre façon de faire ensemble, et tout en ayant quand même une activité à l'extérieur, donc ça veut dire un réel engagement, et peut-être aussi la justification du fait que que vous ayez des mines détendues sur cet album Take It Easy, parce qu'il n'y a pas, il y a pas à se dire merde, il faut que je vende 10 000 albums, sinon le prochain il va jamais sortir, quoi.
Bah, de toute façon, ça joue son rôle, ça a double tranchant, hein, ce genre de situation, mais il y en a plein dans le domaine du blues qui pourraient te le confirmer. C'est-à-dire que d'un côté, il y a cette, on est relax aussi par rapport à ça, quoique pas toujours, hein, parce que notre vie à côté n'est pas toujours si simple non plus à chacun, mais on est assez relax. L'inconvénient, c'est que parfois, ça peut aussi t'empêcher d'aller jouer quelque part. Donc nous, on arrive assez bien à s'adapter, on a d'autres activités qui sont plutôt souples. Voilà.
Et justement, le fait pour toi d'être programmateur, c'est une question qui m'a été soufflée par l'ami Patrice Rayon, encore une fois. Est-ce que ce sont deux professions qui peuvent servir l'une l'autre? Est-ce que ça peut être complémentaire? Est-ce que ça peut...
Oui, bien sûr.
Moi, ça m'a... De rencontrer
dans
des autres,
les deux sens, oui. Oui. Moi, ça m'a permis de programmer des groupes que j'ai vus en allant jouer avec The Joss. Et comme ça me... Enfin, il y a dans ce sens-là, puis dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que forcément, ça y a des liens. On peut aussi comparer les situations. C'est pour ça que je me permets de dire, même si ça se dit pas, enfin, sur notre territoire, c'est un peu compliqué. Mais il y a beaucoup de musiciens où on ne sait pas, mais qui ne sont pas professionnels à temps plein.
Oui.
Hein, y en a beaucoup, vraiment beaucoup.
Et tu penses que c'est un tabou chez certains? Ils préféreraient...
Bien sûr, parce que c'est on a toujours peur d'être minoré avec ça, enfin en tout cas d'être pas estimé comme on devrait, ce qui est dommage. C'est ce que m'avait dit Eric Bibb il y a longtemps maintenant, c'est ce qu'il sentait en France. Il m'a dit, vous avez un problème les Français avec ça. Oui. Je pense qu'il avait raison.
Il y a souvent des musiciens qui me disent, mais alors il y a des gens qui me posent la question en fin de concert, mais vous êtes musicien, d'accord, mais vous faites quoi dans la vie sinon?
Voilà, hein?
C'est toujours...
Ben c'est des choses très, très récurrentes, donc voilà. Après, nous, c'est vrai qu'on a... ça a un bon côté, c'est qu'on est moins inquiet sur l'avenir.
C'est ça.
Le mauvais côté, des fois, c'est que ça nous arrive de ne pas pouvoir se libérer les cinq. On arrive bien à s'arranger. Donc, du coup, c'est ce qui fait qu'on a pu faire quand même de beaux lieux, de belles premières parties, des choses... Et on est très demandeurs, quoi.
Et voilà. Vous arrivez à faire 25 dates par an, facilement, ou pas complètement?
Ouais, à peu près, c'est ça, quoi. Ouais. Une vingtaine.
D'accord, ben voilà, donc ça
à peu près, hein, 20, 25, ça dépend des années. Là, on n'a pas trop joué cet été, pour d'autres raisons. Là, on reprend la semaine prochaine sur une grosse scène, là, pas très loin de chez nous. Donc voilà, après, et puis on a 7-8 dates là qui arrivent, donc ça dépend vraiment des périodes. Mais c'est autant en CAFCONS qu'en festival.
C'est la question que j'allais te poser. Tu parlais beaucoup de festivals, vous produisez dans tout type d'endroits ou... Il y a un minimum, quand même, il y a un minimum, j'imagine. Il y a un minimum de décence par rapport au cachet.
Bien sûr, ouais, il y a un minimum de décence. Après, et puis c'est aussi, voilà, la distance, on peut pas aller jouer pour rien à l'autre bout de la France, hein, ça doit être logique. Après, non, nous, on fait autant les cafés-concerts, on est souvent en café-concert, en festival, ça va être soit des festivals qui n'ont rien à voir avec le secteur du blues, soit parfois des premières parties.
Ouais.
On l'a fait à Jazz Elro, il y avait Mud Morgan Field, on a fait à One Zone Blues à l'époque. Voilà, donc il y a... Et puis après, on fait des festivals, là, le samedi prochain, c'est la 38e fête du Puy-Saint-Bonnet, ça n'a rien à voir. Le groupe qui est avant nous n'est pas du tout un groupe de blues, et le lendemain, c'est du rock. Enfin, et là, ils attendent 2000 personnes, donc...
Alors justement, le fait d'être influencé par le rock, la pop, les courants anglo-saxons, comme l'explique la petite feuille qui accompagne le disque, c'est quand même un atout, ça permet de ne pas se cantonner au festival de blues, quand même, Guillaume.
C'est un atout. Bon, on sait qu'aujourd'hui c'est toujours compliqué de jouer, hein. Il faut chercher des dates, mais c'est un atout. En tout cas, nous, on calcule pas du tout. C'est-à-dire qu'on retransmet ce qu'on a envie de jouer, sans calcul. Après, c'est un atout. Parfois, je trouve que ça peut aussi ça peut bloquer sur un manque de curiosité. C'est-à-dire qu'on peut vite dire, voilà, c'est pas vraiment du blues. Donc il y a aussi ce côté-là.
Alors vous n'êtes pas assez blues pour les amateurs purs et durs. Vous êtes peut-être trop blues pour les amateurs de rock purs et durs.
Des fois, ça peut être ça. Après, nous, ce qu'on dit souvent, c'est que déjà, il faut venir nous voir.
Oui,
déjà.
Bah oui.
Voilà. Parce que c'est pas le disque, c'est un moment important pour nous. C'est un moment aussi très important, c'est une photographie à un instant T. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer, quoi. Et c'est là où on est, c'est pour ça qu'on existe. On existe pour le live, avant d'exister pour un album. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'être sur scène et de jouer, parce qu'il se passe autre chose, c'est de transmettre autre chose. Évidemment, les morceaux ne sont pas joués de la même manière, quoi.
Il y a quelque chose qui est important, et tu le sais bien, puisque tu es programmateur, si on ne peut pas se permettre d'aller voir tous les groupes, parce que certains jouent très loin, c'est la vidéo. Est-ce que ça a changé des choses pour vous par rapport à votre démarche de démarchage? Justement de concert,
on n'a pas tellement de vidéos de qualité d'abord en live, ça on n'en a pas. Après, on a sorti un clip là, parce que c'était important pour nous de faire un clip, ça a un vrai impact maintenant.
Avec le titre qu'on a entendu tout à l'heure, Liars.
Ouais. où là on a fait un clip, on a fait appel à un professionnel du territoire, parce qu'on est très local, nous aussi on aime bien défendre les artistes locaux dans tous les secteurs. Et donc voilà, donc oui, ce clip, ça ouvre un peu sur autre chose. Après, c'est pas une retranscription de ce qui peut se faire sur scène. Donc,
oui, non, mais voilà, ça remplace jamais, mais en même temps, ça permet déjà de se donner une petite idée et puis d'envoyer des copains. Enfin, voilà, quand on est directeur de festival, on n'a pas forcément la possibilité, même si ça ne dure qu'une semaine sur les 52 d'une année. Moi, je connais quelques directeurs de festival qui vont jusqu'en Norvège, jusqu'aux États-Unis pour aller faire leur marché, mais ça reste très, très minoritaire. C'est vrai que la vidéo, maintenant, c'est quand même important. Hein.
Ah ben, c'est très important, surtout chez les jeunes générations. Ça devient, vraiment essentiel. Après, moi, souvent, on entend aussi nous dire que le blues, voilà, ça, c'est une musique qui est un peu vieillie et tout. Bon, nous, c'est pas notre façon de voir les choses. Parce que c'est une musique qui continue. Alors après, elle va évoluer, mais comme tous les autres styles. Et c'est bien que le blues apporte autre chose ou se nourrisse des courants qu'il a générés, même.
Exactement.
C'est ça, l'intérêt. Après, moi, j'apprécie autant aussi des groupes qui vont nous proposer un blues des années 60, hyper bien léché et tout. Moi, je suis très admiratif de ça. Donc, moi, c'est plutôt positif. Après, le mode de consommation, y compris des concerts et autres, a changé. Voilà.
Bon, oui.
On sait bien que le disque, c'est un moyen de communication maintenant.
Bon, puis voilà. Puis une musique décloisonnée, c'est un petit peu dans l'air du temps maintenant. Je pense que le temps des ayatollahs, de toutes les musiques d'ailleurs, est passé de mode depuis pas mal de temps. Je pense aux puristes du jazz qui ont hurlé quand ils ont vu la première fois Santana sur Nice. Enfin bon, c'est... voilà. Je crois qu'on a un petit peu dépassé tout ça. On est en 2018.
Ouais.
Tu l'as dit, le blues continue de se nourrir de ses propres enfants, finalement.
Ouais, c'est ça.
Un peu comme les mythologies. Et puis c'est comme ça qu'il se régénère. Et tant mieux pour le blues, j'ai envie de dire. Mais quand des artistes ont une démarche véritablement entre guillemets authentique, sincère et en même temps voulant vraiment coller à l'esprit de l'époque, c'est quelque chose que tu apprécies aussi ou pas forcément?
Ah oui, complètement. Et même nous, le groupe The Joss, on est assez admiratif de tout ça parce que c'est une vraie imprégnation, culture, recherche. Voilà, enfin, il y a une vraie démarche et complètement. Alors, on est très très ouvert. D'ailleurs, on n'a pas les mêmes goûts dans le groupe. Hein. C'est ça qui est bien d'ailleurs. Voilà.
Alors, les titres qui composent ce disque Take It Easy sont tous des compositions. Sur scène, vous faites aussi des reprises ou pas du tout?
On en fait 2-3.
Ouais, pas plus.
Ah non. Non, on en fait 2-3, ça dépend des moments. Voilà, mais c'est très. Ça peut être du Slim Harpo, ça peut être. On fait Loving Cup régulièrement aussi, qui est un titre qu'on aime beaucoup. Voilà, mais on en fait beaucoup moins qu'avant, ouais.
Ouais, c'est-à-dire qu'au début, le répertoire du groupe était moins étoffé, forcément. Il fallait faire appel à des reprises de moins en moins. Et pourtant, moi j'ai remarqué ça dans certains concerts, les gens aiment bien, au bout de 3-4 compositions, être réentraînés dans quelque chose qu'ils connaissent. Et ça réactive peut-être un petit peu l'intérêt.
C'est vrai.
Alors, est-ce qu'une playlist du groupe The Joss évolue au fil du concert ou est-ce que vous vous tenez à ce qui était prévu?
Alors au fil du concert rarement, par contre on change régulièrement, là je viens de recevoir une pour samedi prochain, voilà.
Ouais.
C'est pas figé, ça dépend aussi de ce qui nous est demandé. Après, quand je te dis qu'on fait 2-3 reprises, c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'elles vont se greffer au milieu d'un set ou à un moment où, tu vois, elles sont pas les trois à la fin, qu'on est vraiment, on les éparpille aussi pour relancer ou pour le rappel ou des choses comme ça. Donc, mais ça évolue. Sur scène, ça peut, hein, ça arrive, hein, qu'on change l'ordre pour des raisons de ressenti par rapport au public, quoi. Ou quand on voit qu'il y a un slow qui arrive et un slow blues qui arrive et que c'est peut-être pas le bon moment, et ben, on passe à autre chose, quoi.
D'accord.
Ça arrive aussi, quoi.
Donc il peut y avoir des remaniements. Guillaume, j'ai deux ou trois questions qui vont te concerner toi, qui vont pas concerner les autres membres du groupe parce que ce sont tes goûts personnels. Et par contre, je te demanderai, si tu veux bien jouer le jeu, de réfléchir le moins possible. Quels sont les trois artistes américains auxquels tu penses en premier quand on te demande quelles sont tes influences, en termes d'harmonica, je parle.
D'harmonica.
Ouais.
Alors les harmonicistes, la plus grosse influence pour moi, et la première, ça a été Sonny Boy Williamson II.
D'accord.
Bryce Miller. Ensuite, moi, c'était très flagrant chez moi, c'était Big Walter Horton.
Mm-hmm.
Voilà. C'est vraiment toutes ces harmonicistes de cette époque-là. Et un qui a joué un rôle aussi dans mon jeu, parce que mon jeu est pas typé Chicago, et quelqu'un que j'ai beaucoup écouté, on en a parlé tout à l'heure, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir, c'est John Popper.
Oui, voilà, tu en parlais tout à l'heure, le blues traveler.
Parce qu'il m'amenait vers, il amenait vers autre chose à l'époque. Voilà.
Je vais te citer quelques noms d'harmonicistes américains, disparus ou encore vivants, et si tu pouvais nous en dire deux mots, soit j'aime bien, j'aime pas, et pourquoi. Tu veux bien?
Oui.
Alors, Junior Wells.
J'aime beaucoup aussi. J'en ai pas parlé, mais c'est un chanteur aussi. Enfin voilà, il est capable de faire les deux très très bien. Donc oui, c'est un jeu. On retrouve ce courant-là. Donc c'est un harmoniciste que j'ai aussi écouté. Peut-être moins. Alors je sais pas pourquoi que d'autres, mais bon.
James Cotton.
James Cotton, j'adore aussi quoi. C'est pareil. Il y a ce jeu très percussif, où il y a beaucoup d'accentuation sur l'harmo, c'est quelque chose qui me parle, parce que je ne suis pas un scientifique de l'harmonica, moi. Je joue un peu comme je le sens.
Scientifique de l'harmonica. Un dernier nom, encore un garçon qui a disparu, à un âge relativement avancé, Snooky Pryor.
Alors je connais beaucoup moins, j'ai très peu écouté des choses de lui, de mémoire c'est pareil, ça reste pour moi, ce sont des pointures et des références, mais c'est vrai que j'ai très peu écouté, hein, donc je veux pas trop m'étaler et dire des bêtises.
Et puis maintenant on va rester en France et pas dans le domaine de l'harmonica, ni pas dans le domaine du blues, c'est volontaire. Est-ce que tu écoutes d'autres choses, et si oui lesquelles, quels sont les trois noms d'artistes, français ou étrangers, chantant en français ou chantant en anglais par exemple, mais en tout cas voilà, qui ne sont pas dans le domaine du blues. Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns?
J'en écoute beaucoup au regard de mon travail à côté, forcément. Je suis très fan en ce moment de Radio Elvis.
D'accord.
Je sais pas si tu vois les trois petits jeunes là. En français, j'écoute pas tant que ça, hein, en français, je suis un peu dur. Camille.
Oui.
Ça, c'est vraiment une artiste qui, moi, me plaît énormément, qu'on a reçu déjà aussi à Cholet. Et puis, un autre que j'ai découvert, en fait, sur le tard, et que d'ailleurs, on va accueillir à Cholet, pour le coup, c'est Christophe.
D'accord. Ah oui. Effectivement. Là, on est dans l'éclectisme le plus total, et ça montre bien ton ouverture d'esprit, et puis, le fait que tu ailles vers les autres, et puis aussi toutes les différentes influences, comme ça, de chacun des membres du groupe. Vous devez écouter des choses, vous passez des disques, tiens je connais pas, vas-y donne-moi ça, ça se passe comment vos échanges musicaux?
On a des points communs, on a des moments qui nous où on se retrouve, puis d'autres où pas du tout.
Ouais.
Donc il peut y avoir des vrais fans de Jean-Jacques Goldman et d'autres qui sont effrayés par ça. Donc on se passe des choses, on se fait écouter beaucoup par mail. On s'envoie, alors pas forcément des artistes connus, hein, des choses parfois même souvent américaines ou des découvertes qu'on s'échange, qui sont plutôt proches quand même globalement du rock ou de la soul ou du blues ou voilà. Après chacun a ses goûts au niveau des artistes français qui sont vraiment pas forcément les mêmes du tout. Il y a des rockers comme des gens qui apprécient énormément la variété.
Exactement, oui. Guillaume Robin, donc harmoniciste et chanteur dans le groupe The Joss, aux côtés de Joël Sicard, Olivier Deloré, Samuel Tricot et Stéphane Tricot. L'album s'appelle Take It Easy. On va en écouter un autre extrait tout à l'heure. Là, à l'instant, c'est toi qui chantais dans Liars. On va écouter un autre titre avec toi au chant, et puis un troisième avec Joël.
On
va écouter Duel et Be Cool si tu veux bien, et puis moi je vais souhaiter en tout cas longue vie bien sûr à ce groupe déjà qui a déjà dépassé la longévité des Beatles largement.
Oh là là, oui. Pas la renommée mais surtout nous ce qu'on souhaite c'est pouvoir jouer, voilà, ça c'est très important pour nous.
Bon.
C'est vraiment ça, pouvoir partager et faire écouter ce que l'on essaye de produire.
C'est ça qu'on souhaite à The Joss. Dernière question, où est-ce qu'on peut trouver votre actu? Est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'on peut se procurer votre album en ligne?
Alors oui, il y a le site, il y a le site The Joss, thejoss.fr, on a un Facebook officiel aussi, et vous trouverez tout ce qu'il faut là-dessus, les dates, l'album à acheter, qui est vendu 10 euros, je crois, de mémoire. Voilà, donc là, vraiment, faut aller vous tapez sur Google The Joss et vous trouverez toutes les infos, la bio, tout ce qui concerne le groupe.
Très bien, alors on termine avec un bon mot de Patrice Rayon qui met « Faut pas faire comme les Beatles, les fans te pourrissent la vie
». Il n'y a pas de risque pour l'instant, on est tranquille.
Merci Guillaume pour ta disponibilité, on va écouter ces deux titres-là, et puis je t'engage, si tu as envie, si tu as le temps, à écouter la suite de l'émission en direct ou en podcast, parce que peut-être que tu vas courir à d'autres destinées, pour le théâtre de Cholet ou pour un prochain concert, une prochaine répétition de The Joss.
Ah ben, de toute façon, il faut qu'on répète. Là, on joue la semaine prochaine. Donc,
Très bien.
Il va falloir qu'on travaille un petit peu. Ouais. Mais non. Merci à vous. En tout cas, merci à toi pour l'échange et puis pour la mise en lumière de notre groupe, parce que c'est très important pour nous. Voilà.
Merci Guillaume. À très bientôt.
Merci.
Au revoir. Voilà, on poursuit avec Duel. Extrait de l'album Take It Easy, c'est toujours The Joss.
A cat on a sled is roof. Main street is empty. Now the cat on a sled is roof. How the future hold for me? It's too late to draw back. I'm in a mess. It's too late to draw back, but no other way out. I'll find a duel. It's just madness. But he was worthless.
Voilà, c'était Duel, extrait de cet album de The Joss. Merci encore à Guillaume Robin pour cette interview. L'album s'appelle Take It Easy. Vous pouvez aller sur leur site internet, c'est tout simple, mrjoss.fr. Et vous retrouvez également les prochaines dates qui sont le 8 septembre. Donc, vous retrouverez The Joss en concert au Puce Abonné le 8 septembre. C'est dans le 49. Ensuite, Pizza Bruno à Cholet le 27 septembre. Le 5 octobre, Truck et Rock'n'Roll à Cugan dans le 85. C'est en Vendée. Le 21 octobre, au Jardin de Verre à Cholet, je crois que c'est là également qu'ils ont pris les photos de cet album sorti en mars 2018. Alors on poursuit avec un dernier extrait, ça s'appelle Be Cool, et on va retrouver Guillaume au chant tout à l'heure, c'était Joël.
Just to be cool. Just to be cool. Be cool.
moi c'est des trucs qui me plaisent bien parce que Be Cool, Take It Easy, tout ça, ben, on est exactement dans le bon mood. Hein, voilà, The Joss, l'album Take It Easy. Vous n'oubliez pas d'aller sur leur site internet et d'aller les applaudir lors de leur prochain concert. On poursuit avec le retour du disque du mois. Pour septembre, c'est toujours Jeremiah Johnson, album Straight Jacket. Voici Blues in Her Eyes.
We'll be right back.
Jeremiah Johnson, ça s'appelle Straight Jacket, c'est paru chez Roof Records et il y en a 12 comme ça des titres, c'est produit par Mike Zito. C'est le disque du mois de septembre pour Sweet Home Chicago. Voilà, il est bientôt, voilà, encore une petite dizaine de minutes et c'est la fin de cette deuxième heure. Si vous écoutez la rediff, c'est bientôt fini. Si vous écoutez le direct ou le podcast, il y a encore une bonne heure à passer ensemble et on va la poursuivre cette deuxième heure avec du French, du français. On a écouté trois titres tout à l'heure de The Joss. C'est maintenant un titre de chacun des disques qui sont arrivés au cours des derniers mois. Il y en a qui ne sont pas encore passés dans l'émission, d'autres si, mais enfin, on va y revenir avec grand plaisir. On a eu, voilà, au cours de cette première heure, beaucoup d'Américains. On va avoir uniquement des Français pendant les trois quarts d'heure maintenant. Avec, pour commencer, Big Brazos, La Part des Anges, démo et inédit. On va retrouver avec plaisir Étienne Faïs, André Fougerousse et Jérôme Travers dans Cordelia Zaideco. C'était Big Brazos, extrait de La Part des Anges, avec l'harmonica André Fougerousse, avec la basse Dobro, Étienne Faïs, guitare, mandoline, banjo, Jérôme Travers, ils chantent, oui, ils chantent tous, Étienne, André, Jérôme, voilà, c'est Big Brazos qu'on retrouve ici avec plaisir. On poursuit avec un tout nouveau groupe qui s'appelle Big Trucks, qui est issu de quelques musiciens de gang, puisque Pascal Rény ne fait plus partie de gang, il est parti jouer chez Nathalie Schmidt, le reste, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a deux groupes, il y a Big O, Hall et il y a Big, The Hall Band, voilà, on va y arriver. Et puis Big Trucks, on va écouter Big Trucks, extrait de Big Bluesman, leur premier hippie. Ça s'appelle, bah si vous connaissez, c'est une reprise de Rory Gallagher, ça s'appelle Bullfrog Blues. Bien senti que c'était pas clair dans vos esprits, cette espèce de confusion entre The Whole Band qu'on va écouter et Big Trucks qu'on vient d'entendre. Alors je vous donne le line-up complet parce que sinon vous allez vous perdre. Prenez des notes. En tout cas, le seul point commun entre ces deux groupes-là, bah, c'est Steffi, le batteur. C'est d'ailleurs lui qui m'a envoyé ces deux albums. Je le remercie. Big Trucks, c'est un groupe de blues rock de la région havraise qu'on vient d'écouter, né en 2017 avec une section basse-batterie, plus d'une centaine de concerts à leur actif, bien sûr, au sein de gang avec des partages de scène, Fred Chapelier, Neil Black, Cliff Moore, Janet Martin, Nina Van Horn, Jérôme Pietri, Laura Cox, etc. Donc Freddy Susi à la basse, Steven Pinjon, dit Steffi à la batterie. Et puis, donc voilà, le line-up a été rejoint par Hélène Magloire, la grève, et puis Thierry Ecquet, passionné de blues et de rock, et Audrey Lio, voilà, donc respectivement. Audrey au chant, Hélène au guitare, Freddy à la basse, Steffi à la batterie, Thierry à l'harmonica. Le groupe qui arrive, c'est The Whole Band, avec pratiquement autant de musiciens, Steffi à la batterie encore, Thomas à la basse, Olivier au chant, donc Eric au guitare et Fabien au guitare, ainsi que Justine au back vocal. The Whole Band, on va écouter tout de suite un extrait qui s'appelle Oklahoma Borderline.